Guerre et paix. Deuxième partie. L'invasion. 1807 à 1812. Chapitre 1. En 1808, l'empereur Alexandre se rendit à Erfurt pour avoir avec Napoléon une nouvelle entrevue, dont la pompe solennelle défraya longtemps les conversations des cercles aristocratiques de Pétersbourg. En 1809, l'alliance des deux arbitres du monde, comme on appelait alors les deux souverains, était si intime qu'au moment où Napoléon déclara la guerre à l'Autriche, l'empereur Alexandre décida qu'un corps d'armée russe passerait la frontière pour soutenir Bonaparte, son ennemi d'autrefois, contre son ex-allié l'empereur d'Autriche. Et le bruit courut qu'il était question d'un mariage entre Napoléon et une sœur de l'empereur. En dehors des combinaisons et des éventualités de la politique extérieure, la société russe se préoccupait vivement à cette époque des réformes décrétées dans toutes les parties de l'administration. Cependant, malgré ces graves préoccupations, l'expérience de tous les jours, la vraie existence individuelle, avec ses intérêts matériels de santé, de maladie, de travail et de repos, ses aspirations intellectuelles vers les sciences, la poésie, la musique, ses passions, ses haines, ses amours et ses amitiés, n'en suivaient pas moins son cours habituel. Sans s'inquiéter outre mesure du rapprochement ou de la rupture avec Napoléon, ni des grandes réformes entreprises. Tous les projets philanthropiques de Pierre, qui, par suite de son manque de persévérance, étaient jusqu'à présent restés sans résultat, avaient été mis à exécution par le prince André, qui n'avait pas quitté la campagne, et cela sans qu'il en fît grand étalage ou y trouvât grande difficulté. Doué de ce qui manquait essentiellement à son ami, c'est-à-dire d'une ténacité pratique, il savait donner, sans secousse et sans effort, l'impulsion à l'ensemble d'une entreprise. Les 300 paysans d'une de ses terres furent inscrits comme agriculteurs libres. Un des premiers faits de ce genre en Russie. Sur ces autres terres, la corvée fut remplacée par la redevance. À Bogoutcharovo, il avait établi à ses frais une sage-femme, et le prêtre recevait un surplus d'émoluments pour apprendre à lire aux enfants du village et de la domesticité. Il partageait son temps entre les Sigories, où son fils était encore entre les mains des femmes, et son ermitage de Bogoutcharovo, comme l'appelait son père. Malgré l'indifférence qu'il avait témoignée devant Pierre pour les événements du jour, il en suivait la marche avec un vif intérêt, et recevait beaucoup de livres. Il remarquait avec surprise que des personnes arrivaient en droite ligne de Pétersbourg pour faire visite à son père, c'est-à-dire venant du centre même de l'action, où elles étaient à portée de tout savoir, aussi bien comme politique intérieure que comme politique étrangère, étaient de beaucoup moins bien informées que lui, qui vivait cloîtré sur sa terre. Malgré le temps que lui prenait la régie de ses propriétés et ses lectures variées, le prince André trouva encore moyen d'écrire une analyse critique de nos deux dernières campagnes, si malheureuses, et d'élaborer un projet de réforme de nos codes et de nos règlements militaires. À la fin de l'année 1809, il fit une tournée dans les terres de Riazan, qui appartenaient à son fils, dont il était tuteur. Assis par un beau soleil de printemps dans le fond de sa calèche, la pensée flottant dans l'espace, il regardait vaguement à droite et à gauche, en sentant s'épanouir tout son être, sous le charme de la première verdure des jeunes bourgeons des bouleaux et des nuées printanières qui couraient sur l'azur foncé du ciel. Après avoir laissé derrière lui le bac, où il avait passé l'année précédente avec Pierre, puis un village de pauvre apparence, avec ses granges et ses enclos, une descente vers le pont où un reste de neige fondait tout doucement, et la montée argileuse qui traversait des champs de blé, il entra dans un petit bois qui bordait la route des deux côtés. Grâce à l'absence de vent, il y faisait presque chaud. Aucun souffle n'agitait les bouleaux, tout couverts de feuilles naissantes, dont la sève poissait la couleur verdâtre. Par-ci, par-là, la première herbe soulevait et perçait de ses touffes, émaillée de petites fleurs violettes, le tapis de feuilles mortes qui jonchait le sol entre les arbres, au milieu desquels quelques sapins rappelaient désagréablement l'hiver par leur teinte sombre et uniforme. Les chevaux s'ébrouèrent. L'air était si doux qu'ils étaient couverts de sueur. Pierre, le domestique, dit quelques mots au cocher qui lui répondit affirmativement. Mais l'assentiment de ce dernier ne lui suffisait pas. Il se tourna vers son maître.
« Excellence, comme il fait bon respirer !»« Quoi, que dis-tu ? Il fait bon, Excellence !»« Ah oui !»
dit le prince André à lui-même.
« Il parle sans doute du printemps. C'est vrai, comme tout est déjà vert et si vite. Voilà le bouleau, le merisier, l'aune qui verdissent. » Et les chênes, je n'en vois pas. Ah, en voilà un.
À deux pas de lui, sur le bord de la route, un chêne, 10 fois plus grand et plus fort que ses frères les bouleaux, un chêne géant, étendait au loin ses vieilles branches mutilées, et de profondes cicatrices perçaient son écorce arrachée. Ses grands bras décharnés, crochus, écartés en tous sens, lui donnaient l'aspect d'un monstre farouche, dédaigneux, plein de mépris dans sa vieillesse pour la jeunesse qui l'entourait et qui souriait au printemps et au soleil, dont l'influence le laissait insensible. Le printemps, l'amour, le bonheur, en êtes-vous encore à caresser ces illusions décevantes ? Semblait dire le vieux chêne. N'est-ce pas toujours la même fiction ? Il n'y a ni printemps, ni amour, ni bonheur. Regardez ces pauvres sapins meurtris, toujours les mêmes. Regardez les bras noueux qui sortent partout de mon corps décharné. Me voilà tel qu'ils m'ont fait, et je ne crois ni à vos espérances, ni à vos illusions. » Le prince André le regarda plus d'une fois en le dépassant, comme s'il en attendait une mystérieuse confidence. Mais le chêne conserva son immobilité obstinée et maussade, au milieu des fleurs et de l'herbe qui poussaient à ses pieds.
Oui, ce chêne a raison, 1000 fois raison. Il faut laisser à la jeunesse les illusions. Quant à nous, nous savons ce que vaut la vie. Elle n'a plus rien à nous offrir.
Et tout un essaim de pensées tristes et douces s'éleva de son âme. Il repassa son existence et en arriva à cette conclusion désespérée, mais cependant tranquillisante, qu'il ne lui restait désormais qu'à végéter sans but et sans désir, à s'abstenir de mal faire et à ne plus se tourmenter.